Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Lors de la dernière émission, nous n'avions cueilli que quelques-unes des fleurs maladives de 1861 et, à dessein, toutes extraites de la section des tableaux parisiens. La fleur qui avait évoqué les petites vieilles, en les qualifiant de, je cite, « monstres disloqués, brisés, bossus ou tordus », comportait aussi ce quatrain, le pronom masculin reprenant le qualificatif de monstre. Il rampe, flagellé par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus, et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Et le poète Yves Bonnefoy de le commenter ainsi. Qu'est-ce que cet invisible? Et par quoi se signifie-t-il? Eh bien, c'est par exemple dans la façon dont telle petite vieille garde très fort serré contre son corps un petit sac brodé, ou dont telle autre, sur son banc de kiosque à musique, se tient toute droite dans son désir de capter des bribes d'un concert. Car ce sont là des indices que la pensée résiste au délabrement de l'être physique, mais aussi la révélation que cette pensée, et toute pensée peut-être, a pour âme un souvenir et un souvenir d'amour. Que penser est l'attachement qui, se perpétuant quand a disparu son objet, prouve que la présence de celui-ci est tout autre que matérielle. Un petit sac, je puis m'attarder à ce sac brodé de fleurs ou de rébus, puisque Baudelaire lui-même s'y est arrêté par deux fois, sur un manuscrit d'abord, puis un jeu d'épreuves. Il l'a remarqué, il le garde en esprit, et c'est parce qu'il sait bien que c'est dans de tels étuis que beaucoup de femmes âgées placent leurs plus chers souvenirs, lettres, photographies, mèches de cheveux, à moins que le sac lui-même, peut-être orné de scènes d'une nature galante, ne soit lui-même le souvenir, ayant été porté en un soir de bal, dans ce passé lointain qui s'acheva par des deuils. Baudelaire revient sur le petit sac, mais c'est aussi à cause du nom que quelquefois on lui donne. Le ridicule ou réticule, écrit-il, et nous comprenons sa pensée. Il se dit que le satiriste ferait un sort à ce mot, à ce ridicule, mais que ce serait là péché, tristement péché contre l'esprit. Difficile est-il de dire, avec la parole du commentaire, ce qu'apportent directement les grands poèmes. Je vais essayer pourtant. Le petit sac, avec son irremplaçable contenu, n'est plus un objet pour la vieille, dont il est désormais le seul bien, c'est une présence qui reste vive auprès d'elle, ou plutôt en elle. Et il n'est pas ce qu'elle possède, il est ce dont elle participe, la réalité par la vertu de quoi elle peut se savoir un être et non déjà une simple chose. Disons même, ce petit sac est le monde. Toute réalité est en lui, sauf que c'est maintenant comme de l'esprit, non de la matière. Une immense transmutation s'est produite qui absolutise ce corps, pourtant réduit à si peu qu'il tiendrait dans le cercueil d'un enfant. Mais justement, note Baudelaire, la petite fille a des yeux divins qui rient à tout et même aux reflets qu'on voit la nuit dans des trous d'eau noire. Le petit sac est la pierre philosophale par laquelle le plomb devient de l'or, le néant s'efface dans l'être. Le poème « Les petites vieilles » a son pendant, symétrie ou correspondance que Baudelaire affectionne très souvent. Au crépuscule du matin répond le crépuscule du soir et aux petites vieilles répond le poème « Les sept vieillards », lui aussi placé dans la section des tableaux parisiens. Vision spectrale de Paris, la vieille capitale. Je lis donc ce poème « Les sept vieillards ». Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. Les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. Un matin, cependant, que dans la triste rue, Les maisons, dont la brume allongeait la hauteur, simulaient les deux quais d'une rivière accrue, et que, décor semblable à l'âme de l'acteur, un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace, je suivais, roidissant mes nerfs comme un héros et discutant avec mon âme déjà lasse, le faubourg secoué par les lourds tombereaux. Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes imitaient la couleur de ce ciel pluvieux et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes, sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux, m'apparut. On eût dit sa prunelle trempée dans le fiel. Son regard aiguisait les frimas et sa barbe à longs poils, roide comme une épée, se projetait pareille à celle de Judas. Il n'était pas voûté, mais cassé, son échine faisant avec sa jambe un parfait angle droit, si bien que son bâton, parachevant sa mine, lui donnait la tournure et le pas maladroit d'un quadrupède infirme ou d'un juif à trois pattes. Dans la neige et la boue, il allait s'empêtrant, comme s'il écrasait des morts sous ses savates, hostile à l'univers plutôt qu'indifférent. Son pareil le suivait. Barbe, œil, dos, bâton, loque, nul trait ne distinguait du même enfer venu ce jumeau centenaire, et ses spectres baroques marchaient du même pas vers un but inconnu. À quel complot infâme étais-je donc en but, ou quel méchant hasard ainsi m'humiliait, car je comptais sept fois, de minute en minute, ce sinistre vieillard qui se multipliait. Que celui-là qui rit de mon inquiétude et qui n'est pas saisi d'un frisson fraternel songe bien que malgré tant de décrépitude, ces sept monstres hideux avaient l'air éternel. Aurais-je, sans mourir, contemplé le huitième ? Sosie inexorable, ironique et fatale, dégoûtant phénix, fils et père de lui-même ? Mais je tournais le dos au cortège infernal. Exaspéré comme un ivrogne qui voit double, je rentrais, je fermais ma porte, épouvanté, malade et morfondu, l'esprit fiévreux et trouble, blessé par le mystère et par l'absurdité. Vainement, ma raison voulait prendre la barre, la tempête en jouant déroutait ses efforts, et mon âme dansait, dansait, vieille gabarre, sans mât, sur une mer monstrueuse et sans bord. Là encore, renvoyons l'auditeur curieux vers la conférence d'Yves Bonnefoy, intitulée « Le poète et le flot mouvant des multitudes », éditée par la Bibliothèque nationale de France. Bonnefoy y commente longuement et magistralement les sept vieillards. Correspondance, symétrie, diptyque, pendant, avons-nous dit, c'est là l'occasion de faire un autre voyage vers le spleen de Paris, ce recueil posthume de 50 petits poèmes en prose que Baudelaire aura un temps nommé « Petit poème lycanthrope » ou encore « Poème nocturne » ou qu'il aura titré « Le promeneur solitaire » ou aussi « Le rôdeur parisien » et même encore la lueur et la fumée. Le lien avec les tableaux parisiens acquiert alors toute sa force, et même le lien avec la seconde édition des Fleurs du Mal, puisque le poète, frappé d'un ictus hémiplégique accompagné d'aphasie le 30 mars 1866, aura auparavant insisté à maintes reprises pour que fût mentionné ce sous-titre pour faire pendant aux Fleurs du Mal. Sans plus tarder, lisons alors le 36e poème en prose intitulé « Le désir de peindre » qui fait écho au poème que nous avions lu précédemment dans les Fleurs du Mal et spécifiquement dans les tableaux parisiens à une passante. « Le désir de peindre ». Malheureux peut être l'homme, mais heureux l'artiste que le désir déchire. Je brûle de peindre celle qui m'est apparue si rarement et qui a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit, comme il y a longtemps déjà qu'elle a disparu. Elle est belle, et plus belle, elle est surprenante. En elle, le noir abonde, et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont deux antres où scintille vaguement le mystère, et son regard illumine comme l'éclair. C'est une explosion dans les ténèbres. Je la comparerais à un soleil noir, si l'on pouvait concevoir un astre noir, versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait plus volontiers penser à la lune, qui sans doute l'a marquée de sa redoutable influence. Non pas la lune blanche des idylles, qui ressemble à une froide mariée, mais la lune sinistre et enivrante, suspendue au fond d'une nuit orageuse et bousculée par les nuées qui courent. Non pas la lune paisible et discrète, visitant le sommeil des hommes purs, mais la lune arrachée du ciel, vaincue et révoltée, que les sorcières thessaliennes contraignent durement à danser sur l'herbe terrifiée. Dans son petit front habite la volonté tenace et l'amour de la proie. Cependant, au bas de ce visage inquiétant, où des narines mobiles aspirent l'inconnu et l'impossible, éclate, avec une grâce inexprimable, le rire d'une grande bouche, rouge et blanche et délicieuse, qui fait rêver au miracle d'une superbe fleur éclose dans un terrain volcanique. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles, mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard. Thank you. S'il est assuré que Rimbaud lut les Fleurs du Mal, dont il critiquait, je le cite, la forme mesquine, tout en vénérant toutefois Baudelaire comme, je le cite encore, un vrai dieu, il est non moins certain qu'un tel reproche ne valait vraisemblablement pas pour le spleen de Paris. Aucun témoignage pleinement crédible n'atteste qu'il ait lu cet ensemble, mais ces illuminations, sous-titrées « Painted Plates » ou « Colored Plates », sans être liées nettement au spleen, obéissent cependant à la liberté nouvelle représentée par le poème en prose baudelairien. D'autre part, faut-il adhérer sans réserve à ce célèbre fragment de la dédicace du spleen à Arsène Housset ? Arsène Housset, cet ami de Baudelaire, qui avait composé une bien fade chanson du Vitrier, surtout si on la rapproche de l'éclatant poème en prose « Le mauvais Vitrier ». Le fragment en question, je veux dire la dédicace à Arsène Housset, précisait « Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, au soubresaut de la conscience. Sans rythme, on peut s'interroger. Le début du 15e poème, intitulé « Le gâteau », est le suivant. « Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j'étais placé était d'une grandeur et d'une noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque chose dans mon âme. » Mes pensées voltigeaient avec une légèreté égale à celle de l'atmosphère. Les passions vulgaires, telles que la haine et l'amour profane, m'apparaissaient maintenant aussi éloignées que les nuées qui défilaient au fond des abîmes sous mes pieds. Mon âme me semblait aussi vaste et aussi pure que la coupole du ciel dont j'étais enveloppé. Le souvenir des choses terrestres n'arrivait à mon cœur qu'affaibli et diminué, comme le son de la clochette des bestiaux imperceptibles, qui paissait loin, bien loin, sur le versant d'une autre montagne, sur le petit lac immobile, noir de son immense profondeur, passait quelquefois l'ombre d'un nuage, comme le reflet du manteau d'un géant aérien volant à travers le ciel. » L'incomparable paix de ce paysage montagneux, quintessence de la nature, inhabituellement aux antipodes des tableaux parisiens, construit un préambule idyllique qui formera alors un violent contraste avec l'horrible guerre fratricide qui suivra. Je laisse les auditeurs découvrir ou redécouvrir par eux-mêmes ce noir tableau de l'enfance. Il en est d'autres dans le recueil. La corde, par exemple, poème dédicacé à Manet et évoquant le suicide d'un petit garçon, ou encore le joujou du pauvre, qui confronte deux enfants au terme d'une véritable lutte des classes. Mais, pour finir, il n'est pas possible, tant dans Les Fleurs du Mal que dans Le Spleen de Paris, de passer sous silence l'envoûtante présence des femmes telles que Baudelaire les a su peindre. Aussi est-ce le 23e poème de la section « Spleen et idéal » intitulé « La chevelure » qui trouvera son prolongement exotique avec le 17e poème en prose intitulé « Un hémisphère dans une chevelure ».« Un hémisphère dans une chevelure », sous-titré « Poème exotique ».« Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de matures. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toute nation et de navires de toute forme, découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlée à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. On ne peut passer sous silence, à propos justement de la musique que l'on vient d'entendre, le célèbre poème de Baudelaire intitulé « La musique » par lequel je voudrais clore cette évocation. « La musique souvent me prend comme une mère, vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile, j'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord un prélude de Rachmaninov, le prélude opus 3, numéro 2, en do dièse mineur, interprété par le pianiste Evgeny Kissin. Puis ensuite, vous avez pu entendre des musiques de Wojciech Kilar, le compositeur polonais. Tout d'abord, un morceau intitulé « Love Remains », puis un morceau intitulé « Death and the Maiden », ensuite un morceau intitulé « My Life Before Me », et enfin le morceau final autour du poème que j'avais lu à la musique, « Certain Light ». Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.